France Inter. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, 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 tête. Carré.
Et c'est une discipline qui s'appelle donc la psychocriminologie. Leur mission est de traquer les détails permettant de cerner la personnalité d'un criminel. Florent Gaterias et Emma Oliveira sont donc psychologues du crime à la direction centrale de la police judiciaire. Ils doivent comprendre comment le meurtrier a opéré, quel était le portrait également de la victime. Ils ont travaillé sur de nombreux dossiers, dont l'affaire Mera. Un travail d'analyse pour décrypter les zones les plus obscures des criminels et aider bien sûr les enquêteurs. Ils publient ensemble « Psychologues du crime » aux éditions Fayard. Ils sont dans un instant les invités de la Tête au Carré. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, l'astéroïde Cérès, le plus gros de notre système solaire, et il se révèle de plus en plus actif.
Oui Mathieu, il y a 2 ans, on y trouvait un volcan de glace, c'était déjà très intéressant. Aujourd'hui, c'est une 20aine de volcans que révèlent les chercheurs de la NASA. Ça bouge dans la ceinture d'astéroïdes, mais aussi dans la tête des chercheurs.
Et bon, on va s'y retrouver dans un instant avec vous, et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Psychologue du crime, c'est donc un livre qui paraît chez Fayard et vous en êtes les auteurs Florent Gaterias et Emma Oliveira. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Florent Gaterias. Depuis quand existe la psychocriminologie au sein de la police judiciaire alors ?
Alors, officiellement, mon arrivée était en juin 2009. Ouais. Il y avait quelques tentatives auparavant, mais rien qui n'avait vraiment été établi. Et à partir de mon arrivée, j'ai essayé de développer quelque chose avec des bases scientifiques qui permettent d'apporter la psychologie au service des enquêtes judiciaires.
Vous êtes combien aujourd'hui ?
Nous allons être 5 dans quelques jours.
Oui, c'est pas beaucoup, hein ?
C'est pas beaucoup, mais en 9 ans, c'est une progression qui est plutôt positive.
Emma Oliveira, est-ce que le profil psychologique d'un tueur est tout le temps très différent selon les individus, ou est-ce qu'au contraire, on trouve beaucoup de traits communs chez les meurtriers ?
On retrouve effectivement des traits communs puisqu'on est dans des profils criminels, mais chaque individu enfin, c'est du cas par cas à chaque fois. Hein. On découvre un individu avec son enfance, son caractère et... Ouais. Et ses pulsions.
On va voir justement avec vous comment vous travaillez autour de ces grandes affaires, le tueur de l'Essonne, l'affaire Mera et bien d'autres encore. On en discute donc avec les messages des auditeurs et les questions qui arrivent déjà pour vous sur franceinter.fr et également sur la page Facebook de l'émission. Cérès, l'astéroïde aux dizaines de volcans, et c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard.
Oui Mathieu, Cérès, c'est le plus gros astéroïde du système solaire. 3 fois plus petit que la Lune et situé loin derrière Neptune, on le pensait inerte et sans vie. Mais grâce à 2 ans de données collectées par la sonde Dawn de la NASA, on découvre 20aine de volcans, des geysers. Alors ça bouge sur Cérès, Mathieu.
Ça bouge énormément, effectivement.
Oui, et ça bouge aussi dans la tête des chercheurs, car ces découvertes successives sont en train de modifier complètement la vision qu'on a des corps loin dans le système solaire. Et pour en parler, on accueille notre invité, Benoît Carry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome à l'université de Côte d'Azur, au laboratoire Lagrange. Alors, quand même, il faut préciser quelque chose, ces volcans sont des cryovolcans, c'est-à-dire des volcans de glace. Comment est-ce qu'on peut les imaginer, nous, qui n'en avons pas sur Terre ?
Alors, c'est à peu près, il faut imaginer ça comme le même principe. Vous avez dans le sous-sol quelque chose qui va être plus chaud que son environnement, donc il va devenir moins dense et qui va remonter, un peu comme la bulle d'air au fond du bain, qui va remonter à la surface. Donc sur Terre, c'est de la roche chaude, le magma, qui joue ce rôle-là et qui remonte à la surface. Dans le cadre de Cérès, où le corps est assez froid, cette fois-ci, c'est juste la glace d'eau qui va remonter et arriver en surface.
Quelle taille font les volcans, à peu près ?
Alors là, donc la vingtaine de volcans qu'ils ont trouvés font entre 16 et 80 km de diamètre, donc ce qui est quand même assez conséquent. Et en termes d'altitude, ils font quelques kilomètres, de 1 à 4. Donc c'est des petits monts blancs, on va dire.
Oui, des petits balèzes, oui.
Alors, il y a 2 ans, on n'imaginait pas du tout trouver déjà un volcan, mais 20aine de volcans sur Cérès. Qu'est-ce qui a changé dans votre discipline après le passage de la sonde Dawn, alors ?
Alors, plusieurs choses. Donc le fait qu'on ne s'y attendait pas, c'est le résultat d'une conception qu'on avait avant. Pour avoir des volcans, il faut de l'énergie. Donc sur Terre, des volcans de lave, sur Cérès, des volcans de glace, il faut quand même quelque chose qui va donc chauffer le matériel pour lui permettre donc de remonter, comme j'expliquais avant. Et la question est donc la source d'énergie. Donc il y a peut-être une dizaine d'années, on vous aurait dit Mars, la Lune, Cérès sont des corps morts, car ils sont trop petits pour avoir suffisamment de radioactivité naturelle pour chauffer en leur intérieur et avoir ce type de d'activité comme on a sur Terre, hein, tectonique des plaques, volcanisme. Et donc là, la grosse surprise était de trouver un volcan sur Cérès, qui fait que 950 km de diamètre, et de voir un volcan. Donc ça, c'était déjà une grosse surprise. Et là, donc l'étude qui est partie avant-hier montre qu'ils en ont trouvé une vingtaine de volcans. Et pourquoi on a mis 2 ans à les trouver? C'est parce que comme ces volcans se sont créés dans l'histoire de Cérès, et malheureusement, comme Cérès est constamment bombardé par d'autres astéroïdes, ben les volcans se font détruire par les cratères qui viennent se superposer.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est trompé sur beaucoup d'autres corps de notre système solaire?
Alors, je pense qu'on s'est trompé sur la capacité d'un corps à garder son énergie ou la perdre. À partir du moment où on a une soupe primordiale à partir de laquelle les objets se forment, vous allez naturellement avoir des objets avec une certaine radioactivité. Hein. On en a sur Terre, il y en a partout, il n'y a pas de problème. Donc peut-être qu'on s'est un peu trompé sur les briques de construction. Il y a encore des choses à comprendre peut-être dessus. Et je pense aussi surtout qu'il y a à comprendre sur comment ces corps en fait évacuent leur énergie au cours du temps. Donc suffit qu'ils l'évacuent un peu moins efficacement qu'on ne le pensait. Et au lieu d'avoir un corps qui va mourir géologiquement en 1 à 2 milliards d'années, et ben 4 milliards d'années après sa formation, il reste actif. Et c'est ça la grosse découverte, c'est qu'à l'heure actuelle, on a donc des petits cailloux, hein, quelque part 1000 km, c'est petit, au milieu de la ronde des planètes, qui sont encore géologiquement actifs.
Et Benoît Carré, donc il faut vraiment imaginer ces volcans avec des éruptions de glace, hein. C'est bien de ça dont on parle. Hein.
Alors, oui, il y a une partie de la glace qui va sortir donc au sommet et déposer ensuite sur les pentes, hein, puisqu'on a remarqué, via les images prises par la sonde Dawn, que sur ces formation, donc sur ces dômes, il y avait des dépôts de matière organique, de sel qui étaient récentes, donc il y a bien de la matière qui sort, mais pas seulement, comme vous avez une remontée sous la croûte, enfin en tout cas dans la croûte de cette bulle de glace d'eau, ben elle va pousser la croûte vers le haut, exactement, si vous mettez votre main sous la couverture, vous la poussez vers le haut, ça va faire une bosse. Donc vous avez l'action combinée, vous poussez par-dessous et vous déposez par-dessus.
Alors Mathieu, vous avez l'air de vouloir des phénomènes un petit peu exceptionnels. Sur Cérès, il y a des geysers aussi, Benoît Carré, et là c'est plus impressionnant par contre.
Alors c'est plus impressionnant parce que c'est... Oui, c'est un peu plus spectaculaire. Maintenant, quand même, construire une montagne de 4 km, ça reste quelque chose de spectaculaire, je crois.
En termes de dynamique, en tout cas, ça va plus vite.
Ah, ça va beaucoup plus vite. Donc, effectivement, il y a des geysers. Hein. Cérès est sur une orbite un petit peu excentrique. Autrement dit, il y a des fois, il est plus proche du Soleil. Et des moments, il est un peu plus loin du Soleil. Et on a remarqué que quand Cérès est au plus proche du Soleil, eh bien, il y a en particulier un cratère qui s'appelle Okator. Il y a une tache brillante au milieu et c'est un geyser. Donc là, ce qui se passe, c'est que le Soleil chauffe la surface. La surface chauffe le sous-sol et donc les poches de glace qui se trouvent dans le sous-sol vont se sublimer, hein, la glace va se transformer en gaz, et quand la pression est suffisante, vous avez un geyser qui sort exactement comme sur Terre.
Alors, est-ce qu'il y a des missions qui sont prévues maintenant pour retourner vers Cérès pour observer ces volcans et ces geysers encore d'un peu plus près?
Alors non, il n'y a pas de mission prévue pour Cérès. Déjà, la mission Dawn aurait dû s'arrêter il y a un peu plus d'un an, et la NASA avait décidé de la continuer. Et le but de l'extension était de descendre plus bas. Donc vous voyez bien, la sonde est en orbite autour du corps, donc elle tourne constamment autour de Cérès. Et plus votre sonde est à basse altitude, plus elle va sentir la gravité du corps. Donc si elle passe au-dessus d'une montagne, quelque part elle descend un petit peu parce que la gravité la tire vers le bas. Et donc le but était de prendre des images à haute résolution et aussi d'étudier un peu mieux la gravité locale des points, ce qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe juste sous la surface, au niveau de la croûte.
Il n'y a pas d'atterrissage prévu à l'horizon, hein, sur Cérès, Benoît Carré.
Pas du tout.
Eh non,
pas
quel dommage, hein, ce serait formidable. En tout cas, merci, parce que c'est effectivement un objet très intéressant à étudier et encore de nouvelles publications autour de Cérès. Merci, Benoît Carré. Et Axel, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, quand le plastique ressort de l'eau à cause des moustiques, les larves de moustiques se nourrissent, figurez-vous, et grandissent en pompant l'eau contenue dans des mares peu profondes ou des flaques, ça vous le savez, mais une équipe de chercheurs anglais démontre que si cette mare contient des microplastiques, alors le corps du futur moustique se charge de polluants. Les microplastiques sont alors réinjectés dans la chaîne alimentaire, le moustique ayant de nombreux prédateurs, chez les oiseaux, les chauves-souris et les insectes. Une voie de dissémination nouvelle qui, selon les chercheurs, ne doit pas être négligée. Des calculs rénaux vus par les yeux des géologues, examinés par des techniques réservées à la géologie. Les lithases rénales révèlent une structure en couche similaire à d'autres minéralisations d'origine biologique. Cette étude originale menée aux États-Unis a permis d'obtenir des images impressionnantes et colorées. Elle démontre que les calculs d'oxalate de calcium sont issus d'un processus dynamique où des phases de croissance alternent avec des phases de dissolution, un peu comme les massifs coralliens. Et puis pour terminer, le sauvetage original de 5 bébés écureuils. L'histoire s'est déroulée ce week-end dans le Wisconsin. Une fratrie de 5 jeunes écureuils a été recueillie par un centre des Amis de la Nature dans une fâcheuse posture. Ils étaient tous attachés entre eux par leur propre queue, un vrai sac de nœuds. Il leur a fallu les anesthésier et plus d'une demi-heure pour les détacher. Leurs 5 queues déjà bien poilues se sont retrouvées empêtrées dans des fibres plastiques. La proximité dans le nid a ensuite fait le reste pour tout emmêler fermement. Sur leur compte Twitter, les vétérinaires ont annoncé que les 5 petits malheureux sont repartis sain et sauf, avec seulement quelques poils en moins. Allez, la psychologie du crime, dossier de l'émission dans un instant. Et c'est une nouveauté, Gorillaz et George Benson avec Humility.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Imaginez le Starling, dites-moi ce que vous voyez.
C'est un homme de race blanche. Les tueurs en série aiment chasser dans leur propre groupe ethnique. Ce n'est pas un vagabond, il vit dans une maison, pas dans un appartement.
Pourquoi ?
Pour faire ce qu'il fait, il doit être isolé. Il doit avoir 30 ou 40 ans. Il a une grande force physique, la volonté d'un homme mûr. Il est prudent, il est décidé, précis. Il n'est jamais impulsif, il ne s'arrêtera jamais.
Pourquoi ?
Il a pris goût à ce qu'il fait et il le fait de mieux en mieux.
Pas mal, Starling.
Voilà un extrait du Silence des agneaux pour illustrer notre émission, pour cette plongée dans la psychologie des criminels, dossier de la tête au carré avec mes invités Florent Gatterias, vous qui avez créé donc ce service de psychocriminologie au sein de la police judiciaire, donc vous le disiez tout à l'heure en 2009, et puis Emma Oliveira qui vous a rejoint en 2012 et donc vous publiez ensemble Psychologue du crime aux éditions Fayard. C'est quasiment vous deux d'ailleurs qu'on entendait là dans l'extrait du Silence des agneaux.
Quasiment,
hein,
tout à fait.
C'est exactement le type de discussion que vous avez en voiture quand vous débriefez, j'imagine, non ?
On a d'autres discussions, mais, oui, mais ça peut en faire partie.
Oui. Emma Oliveira, évidemment, on a passé cet extrait-là parce qu'il est incontournable, hein, quand on parle de votre profession, et puis surtout parce qu'il correspond aussi à un moment important pour vous. C'était un vrai déclencheur, ce film, dans votre intérêt pour la criminologie ?
Oui, tout à fait. Ouais. À l'époque, j'étais jeune, hein, j'étais adolescent, je devais avoir 15-16 ans, et j'ai trouvé ça fascinant.
C'est vrai ?
Oui, mais comme beaucoup de gens, je pense. Hein.
Qu'est-ce qui vous a fasciné ? C'était Jodie Foster ou c'était Hannibal Lecter ?
Le mélange des deux, justement, ouais. ce duo de cette jeune policière qui se retrouve face à un tueur en série très intelligent, très charismatique. Anthony Hopkins, il est vraiment parfait pour ce rôle. Et, ouais. Et après, découvrir que ce type de personne existe, très rarement, heureusement, mais ça existe.
Oui. Et c'est votre quotidien aujourd'hui, quasiment, finalement.
Oui, alors, heureusement, on n'a pas des tueurs en série comme ça tous les jours chez nous. Hein, ouais. Surtout qu'en France, on est un peu plus épargné que les États-Unis.
Ouais.
Mais on en a quelques-uns.
Ouais. Alors, vous avez quand même commencé par la psychologie avant la criminologie. Hein.
Tout à fait.
C'est quand même comme ça que ça se passe au départ. Mais assez rapidement, vous avez voulu, justement, aller dans cette branche un peu particulière.
Tout de suite, en fait. Ouais. Hein, j'ai fait une école classique, enfin, hein, l'université de psychologie clinique. Mm-hmm. Mais j'ai également deux autres diplômes en criminologie et j'ai axé tous mes mémoires de recherche à la fac sur le monde de la criminologie.
Ouais. Ouais. Et vous, Florent Gatterias, alors, puisque vous êtes 5 hein, en France, c'est quand même peu.
En tout cas,
votre activité donc que vous avez un peu initiée finalement en France, et puis l'envie aussi, c'était de faire connaître ce métier,
ah oui,
à la fois célèbre et mal connu, c'est ce que vous écrivez vous-même. Hein.
Oui, ouais. Bah, on le voit bien justement avec le Silence des agneaux, on se fait des représentations, on entend l'agent spécial Starling faire une interprétation. Ma première question, ce serait de lui demander, mais pourquoi elle avance telle ou telle interprétation? Il faut aussi, voilà, s'il n'y a pas de base derrière, ça reste quasiment une vision comme la représentation télévisée peut nous en donner de temps en temps. Ouais. Ce n'est pas le cas.
Donc, c'est-à-dire qu'entre vous, vous vous posez beaucoup de questions. Bien aussi, hein, en permanence, parce que c'est important pour éviter tous les biais possibles.
Oui. Tous les biais possibles, on est dans le domaine de l'interprétation de toute façon, puisque oui. Dans le domaine des sciences humaines, cette interprétation doit pouvoir être confrontée à d'autres savoirs, d'autres visions. Et seul, c'est dangereux.
Oui. Alors, hormis l'affaire Mera, justement, les dossiers criminels dont vous parlez hein, dans ce livre ont été transposés à d'autres lieux et à d'autres époques.
Bien sûr.
Pourquoi d'ailleurs ? Parce que là, on va écouter des extraits.
Pour plusieurs raisons. Le but n'était pas de parler d'affaires pour parler d'affaires, mais de montrer comment, sur un crime ou une série de crimes, nous agissons, nous réfléchissons, les outils que nous utilisons. Et les affaires restent relativement secondaires. On en devine évidemment certaines. Néanmoins, on parle aussi d'individus que l'on a dû essayer de comprendre à un moment ou à un autre. Mmh. Et on n'a pas envie de rajouter encore une vision négative à ce qui a déjà été fait sur
eux. Donc c'est une façon de respecter un anonymat d'abord pour les victimes.
Alors, les victimes en premier, c'est
évidemment.
Clair. Oui.
Et ensuite quand même pour les criminels qui sont d'ailleurs... Pour certains d'entre eux, nombreux en prison
tout
encore
à fait.
Aujourd'hui.
C'est un petit peu l'objet de notre travail, ouais. Les arrêter pour les neutraliser.
Alors Françoise, sur la page Facebook de l'émission, demande pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer votre vie à proximité de la psychologie d'esprit ayant imaginé et commis le pire. Alors Emma Oliveira.
C'est difficile, c'est-à-dire que moi, le monde de la psychologie, la compréhension de l'être humain, c'est quelque chose qui très rapidement est né chez moi. Et c'est vrai que là, on part dans quelque chose d'extrême. Alors extrême dans le négatif, je suis d'accord. Mm-hmm. Mais c'est ce côté extrême qui m'a plu, c'est d'essayer de comprendre vraiment jusqu'où l'être humain peut aller, de quoi il est capable et quels sont les mécanismes en jeu dans le passage à l'acte. Je trouvais ça assez fascinant, en fait.
Et vous, Florent Gatterias ?
L'extrême, finalement, est rare. Notre travail, c'est de le décortiquer pour lui redonner une humanité. C'est ce qui permet de le comprendre et de pouvoir agir ensuite. Si, mm-hmm. si on ne comprend pas cet aspect humain, notre travail n'est pas efficace. Ouais. Donc finalement, on rend le crime certes plus humain, mais pour mieux lutter contre.
Ouais. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que vous n'êtes pas policier. Hein.
Bien sûr.
Vous êtes psychologue.
Ah oui, tout à fait.
Hein. Vous n'êtes pas profiler, justement. C'est ce qui fait un petit la différence avec ce mot qu'on connaît bien, hein, mais vous ne faites pas partie de la police à ce titre-là.
Voilà. Les profilers, au sens américain du terme, comme l'a inventé le FBI, ou analystes comportementaux, qui est la traduction du terme américain, ce sont des policiers qui sont formés aux techniques du profilage ou de l'analyse criminologique. Ouais. Nous, c'est le contraire. Nous sommes d'abord, avant tout, des spécialistes du comportement humain et nous l'appliquons à la criminologie et au travail des affaires judiciaires.
Alors, quelle est votre place exacte, justement, auprès des policiers, auprès des magistrats, des médecins légistes, en tant que psychologue aujourd'hui ?
Alors, auprès des policiers, nous sommes avant tout un conseil. Mmh. Nous sommes là pour leur donner notre vision, leur permettre d'avoir une autre approche, un autre type de réflexion. La police française a de façon assez traditionnelle un taux de résolution des crimes qui est assez élevé. Nous essayons de performer encore ce niveau-là par notre approche. C'est pas nous qui résolvons les affaires, mais nous les aidons. Les médecins légistes, c'est... Eux nous apportent leur savoir. Nous avons besoin de leurs connaissances pour pouvoir réfléchir. C'est généralement eux qui nous donnent la matière première de notre réflexion.
Mmh. Et vous avez été bien accepté par les policiers, alors justement, au départ, lorsque vous avez commencé à exercer votre discipline ?
Oui, parce qu'on est dans une approche parallèle. Il n'y a pas de rivalité. Nous ne sommes pas un service qui vient empiéter sur le travail des autres. En fait, on donne des éléments de compréhension et les policiers le prennent s'ils le veulent bien. S'ils n'en veulent pas, c'est très simple pour eux. Il suffit. Ouais. Mais avec le temps, il leur devient de plus en plus difficile, au moins, de ne pas s'interroger sur notre apport.
Ouais. D'autant que vous aidez aussi les enquêtes. Hein. C'est quand même ça aussi à la base de votre travail. Est-ce que vous êtes amenée, Emma Oliveira, à aider les policiers eux-mêmes aussi d'un point de vue psychologique ?
Non, faut jamais. Pas tout mélanger. Ouais, non, c'est des collègues avec qui on va déjeuner, avec qui on partage du temps. On peut pas être là. Enfin, déontologiquement, c'est pas possible. Et puis, ça viendrait casser quelque chose. On travaille ensemble et en même temps, je vais faire son analyse ou sa thérapie, c'est pas possible.
Mmh. Et pourtant, les policiers ont besoin aussi d'aide. Hein. C'est ce que vous dites dans cet ouvrage. Il y a quand même des stress post-traumatiques très sévères suite à des affaires quand même sérieuses et traumatisantes.
Ils ont des services
spécialisés. Et là, il y a des services spéciaux.
Ouais. Oui, depuis 1996, il y a un service spécialisé pour le soutien des policiers par des psychologues.
Ouais. Éric demande quelles sont les compétences et qualifications nécessaires justement pour exercer comme psycho-criminel, pour faire partie du Club des 5.
Le Club des 5, c'est bien parce que à 5, on peut faire un tarot. Notre statut, avant tout, c'est psychologue. Mmh. C'est comme ça que, par ce statut-là, que nous sommes reconnus par l'administration française. Mmh. Il n'y a pas de reconnaissance de psychocriminologie en tant que telle par les universités françaises, même si certaines universités ont une formation qui va un petit peu dans ce sens-là. Mmh. Mais ça reste, par rapport à nos besoins, ça reste léger. Donc, nous sommes avant tout des psychologues qui nous sommes formés à la criminologie.
Ouais. Et pourtant, les psychologues, il en existe aussi dans les commissariats ou pas ? Oui, parce que Nicolas Sarkozy lui-même avait souhaité, quand il était ministre de l'Intérieur, qu'un certain nombre de psychologues arrivent dans les commissariats.
Tout à fait, je suis même celui qui a mis en place le dispositif. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Emma, puisqu'elle était une des premières candidates.
C'était à Nancy, c'est ça ?
J'ai fait 5 ans. Oui, alors j'avais postulé à Nancy, j'étais arrivée deuxième, et après j'ai fait 3 ans sur le 93.
Ouais. Alors ça, Bobigny, puisque vous en parlez aussi, vous décrivez alors d'abord ce département comme étant quelque chose qui vous a beaucoup plu, avec quelque chose de très dynamique. Parce que visiblement là-bas, le mot c'est l'urgence absolue, tout le temps. Tout est tout le temps urgent en fait.
Effectivement, c'est ça.
Et vous avez été amené à traiter des affaires extrêmement différentes là-bas sur place. Hein.
C'est ça, c'était un panel extrêmement large de victimes. Vu énormément de choses.
Quadruple homicide, immeuble qui prend feu, suicidé du RER, Rottweiler qui tue un enfant le saisissant à la gorge, un homme qui tire sur sa femme à l'arbalète, ou un autre qui la poursuit au katana. Qu'est-ce que c'est que le katana ?
C'est une grande épée asiatique.
Ouais. Et clameur résonne dans le commissariat. Elle est où la psy ?
Tout à fait.
Il y avait quand même urgence à intervenir régulièrement. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous sur le site de l'émission. Je vous les transmets juste après avoir écouté Voyou.
Inter.
De l'accusé, seul le sommet de son crâne est visible dans le box. Yoni Palmier affiche une désinvolture déconcertante au regard des quatre assassinats dont il doit répondre. Aujourd'hui, les experts psychiatres sont venus décrire une personnalité borderline aux constructions imaginaires et hyper narcissiques. Peu importe la victime, ont affirmé les psychiatres. Yoni Palmier ne s'intéresse pas aux personnes qu'il tue. Il s'en moque.
Plus que sa personnalité, c'est son acte qui nous parle de lui. Avoir pu penser, sans être fou, tuer quatre personnes qui sont innocentes. C'est ça la clé de ce qu'il faut comprendre. Au fond, pour lui, faire ces quatre actes-là, c'est une forme d'œuvre, c'est une forme de réalisation. Ce qu'on appelle, nous, en criminologie, le héros négatif.
Voilà, le tueur de l'Essonne, hein, c'était en 2015, avec donc un cas abordé dans votre ouvrage, Florent Gatterias et Emma Oliveira, dans ce psychologue du crime chez Fayard. Alors, c'est Yoni Palmier, moi je peux le prononcer, hein, ce nom, parce que vous avez choisi de l'appeler Haroun, justement, dans cet ouvrage. Qu'est-ce qui fait justement la singularité de cette affaire en particulier, Florent Gatterias?
Quand on a affaire à une série de crimes, on s'intéresse toujours aux motivations. Là, les motivations pouvaient se cristalliser autour de la personnalité des victimes. C'est ce qui se fait généralement dans la plupart des affaires. Or, cette série-là a eu comme particularité que les victimes n'avaient aucun lien entre elles. Mmh. Donc il a fallu faire un travail pour d'abord arriver sur ce début de conclusion-là, et ensuite travailler non plus sur les victimes, comme on le fait d'habitude, mais sur le lieu de commission des crimes, pour voir quel était le point commun entre eux.
Et à partir du moment où un suspect est trouvé, comment est-ce que là, justement, Emma Oliveira, est-ce que vous intervenez alors auprès de la police? Vous pouvez mener des entretiens autant que vous voulez. Racontez-nous comment ça se passe dans ces cas-là.
Alors non, je ne peux pas mener des entretiens comme je veux, malheureusement. Non, le suspect est identifié par rapport aux motos. Enfin, il y en a même plusieurs. Il y en a un quand même qui nous intéresse un peu plus que les autres. Et on fait des recherches pour voir si déjà il est connu des services de police, qui est le cas.
Ouais.
À partir de là, il faut demander les auditions aux services locaux. Là, ça va assez vite. Et après, il faut décortiquer ces auditions. Il y en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure.
Donc d'abord, c'est une lecture de dossier, c'est
voilà,
ça
hein. C'est toujours une lecture de dossier. Hein. Nous, la plupart du temps, c'est 80-90% de notre travail. Hein. Mm-hmm. C'est de tout reprendre et s'intéresser particulièrement aux auditions de la famille, mm-hmm. des amis, des connaissances, du voisinage. Enfin, toutes les informations qui concernent cet individu nous intéresse.
Et des entretiens directement donc avec les différents acteurs de l'affaire, hein, que ce soit le suspect ou les victimes, lorsqu'elles sont encore en vie, ça vous pouvez intervenir aussi, évidemment?
Alors le suspect, c'est seulement au moment de l'audition. Mmh. Et maintenant, oui, on participe aux auditions. À l'époque, ce n'était pas encore le cas, parce que notre service était assez nouveau, donc oui. Les magistrats étaient encore un petit peu frileux.
Alors que ça peut être très important, parce que justement, le psychologue peut faire complètement basculer l'affaire, rien qu'en posant des questions, justement. Et on voit comment ça se passe, hein, précisément, mm-hmm. dans ce que vous décrivez. Donc,
Oui, parce que nous, on est là, on observe énormément le jeu qui peut se passer entre un policier et une personne auditionnée. Et c'est vrai qu'on a un recul, ce qui est aussi utilisé en négociation. Il y en a un qui négocie, un autre qui observe. Celui qui observe a un champ extrêmement large d'observation, ce qui n'est pas le cas quand on est dedans, qu'on pose les questions, qu'on réfléchit.
Ouais. Florent Gaterias avec justement Haroun hein, sur le tueur de l'Essonne. À quel moment ça bascule vraiment? Alors qu'est-ce qui fait basculer justement le suspect?
Ah, basculer le suspect n'a pas avoué, donc il n'a avoué que lors de l'appel de son procès. Mm-hmm. Par contre, ce qui était important pour nous, c'était d'abord au départ de le trouver, donc d'avoir des compréhensions sur sa personnalité et de donner aux policiers les meilleurs éléments qui permettent d'aborder la relation que l'on voulait pouvoir créer avec lui. Ça a été assez difficile. Hein. On avait affaire quand même à une personne particulièrement fermée. Notre travail, puisque nous avons agi à deux à ce moment-là, était d'analyser toutes les vidéos faites dans la demi-heure précédente par les policiers pour pouvoir leur rendre compte de stratégies d'audition à adopter pour être de plus en plus efficace.
Alors, il y a beaucoup de questions sur la personnalité, hein, justement, du criminel. On dit que la construction, dit Jean-François, se passe très tôt pendant la petite enfance. Est-ce que vous pensez qu'on peut détecter des criminels en puissance dès l'enfance? Alors, est-ce qu'il y aura un déterminisme du criminel?
Bien sûr que non. Alors évidemment, il y a des facteurs qui fragilisent un individu. Ces facteurs-là n'amènent pas nécessairement au crime, mais ils peuvent amener à des perturbations de la personnalité.
Oui.
Chacun ensuite réagit en fonction de ce qu'il est, de son histoire, de sa structure. Ce que l'on peut observer, par exemple, moi qui suis régulièrement des agresseurs sexuels en prison, je m'aperçois que 2/3 d'entre eux ont été maltraités ou abusés pendant leur enfance. Mais ça veut dire qu'un tiers d'entre eux ne l'a pas été, et qu'en même temps, tous ceux qui ont été maltraités ou abusés ne deviennent pas agresseurs sexuels pour autant. Donc ça ne suffit pas de s'intéresser à cette histoire personnelle. Il faut aussi voir comment elle réagit par rapport à ce qu'est l'individu dans sa personnalité profonde.
Mmh.
Comment ça, il donne un sens à ce qu'il a vécu. Et là, on commence vraiment à sentir des choses plus fines.
Béatrice, justement, toujours sur franceinter.fr, pour compléter, demande si, justement, la maltraitance subie par nombre de criminels s'inscrit, justement, dans leur fonctionnement et leur relation à autrui. Est-ce que c'est quelque chose, justement, qui est déterminant, Emma Oliveira?
Déterminant, je ne sais pas, mais ça influence quelque part, puisque on sait que des enfants maltraités commencent à développer des choses comme l'intolérance à la frustration, une certaine agressivité refoulée, puisque souvent on ne tient pas tête à celui qui nous agresse quand on est jeune. Donc Il y a peut-être ces mécanismes-là qui se cristallisent dans l'âge adulte.
Dans le cas du tueur de l'Essonne, en tout cas, il y a eu effectivement des actes commis envers ses parents, en tout cas, assez
jeune.
Alors
lui, oui, mais à l'inverse, non, finalement. Enfin, on n'a pas eu d'éléments de maltraitance le concernant, mais après, une place dans la fratrie qui est très particulière.
Ouais, avec le père et la mère.
Il y a de toute façon aussi souvent des défaillances d'un point de vue affectif de l'un des deux parents, quand c'est pas les deux d'ailleurs.
Ouais. Alors quand un de nos auditeurs, Jacques, demande s'il y a des points communs à la psychologie justement des criminels, c'est très difficile de répondre oui, hein, à vous entendre.
Oui, c'est très difficile. Et il y a quand même quelque chose qui revient de temps en temps dans les crimes les plus remarquables, notamment les crimes en série, ce sont des personnalités qui luttent contre des angoisses intérieures. Tout à l'heure, on entendait à propos de l'affaire du tueur de l'Essonne, l'expert, en l'occurrence, c'était Roland Coutanceau, qui parlait d'état limite et qui parlait effectivement de la personnalité. Cette lutte contre l'angoisse peut parfois se résoudre apparemment dans des passages à l'acte violent. Et on retrouve ça d'une façon assez récurrente chez les criminels les plus spectaculaires.
Alors, il y a deux choses importantes d'ailleurs que vous précisez dans le livre, c'est que votre discipline, c'est un simple maillon justement dans cette chaîne des investigations, et puis aussi qu'il faut beaucoup se méfier de la distorsion cognitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire également si on décortique le langage, le jargon de la psychologie?
De toute façon, nous faisons tous des représentations du monde pour mieux le comprendre rapidement. Et nous vivons comme ça avec des schémas préconçus. Ouais. Or, ces schémas sont actifs et pertinents dans la plupart des cas, sauf dans certains cas. Sauf quand nous avons affaire, en l'occurrence, à des personnalités hors normes. Et là, il faut que l'on sorte de ces schémas traditionnels. Il faut que l'on sorte des distorsions cognitives.
Ouais. Emma Oliveira, donc attention à ne pas aller trop vite dans vos analyses, dans vos impressions aussi. Ça guette à chaque instant finalement le psychologue lui-même.
Ah bah oui, parce que c'est humain, comme l'a dit Florence, ça permet de s'adapter au monde et de le comprendre. Donc c'est très humain d'avoir des préjugés et puis aussi des jeux d'identification, de projection. Enfin, il y a plein de choses, plein de mécanismes psychiques qui se mettent en place.
Roger nous dit, il existe aussi un département des sciences du comportement en gendarmerie, puisqu'on parlait de la police.
Hein. Oui, oui, ça, qui a été bien antérieur, puisque en 2003, il y a eu une réflexion de la justice sur l'analyse comportementale, l'analyse criminelle, qui faisait un petit peu l'amalgame entre les deux. Mais même avant cette réflexion-là, la gendarmerie avait créé quelque chose sur le modèle américain, c'est-à-dire des gendarmes qui ont été formés au profilage, à la psychologie.
Paul demande, est-ce que la génétique a aidé à résoudre énormément d'affaires façon cold case? Alors aujourd'hui, l'ADN, c'est quand même quelque chose de très très important.
Oui, c'est même un problème. Parce que ça retire aux policiers des capacités d'entrer en relation avec la personne qu'ils entendent, qu'ils interrogent, puisqu'ils vont chercher une preuve concrète.
Ouais.
Et ils ne sont beaucoup moins qu'avant, comme on le voyait dans les Maigret, écrit par Simenon, dans un rapport d'individu à individu. Le concret, le factuel est beaucoup plus présent.
C'est peut-être votre rôle, ça, justement, en tant que psychologue.
Hein. Exactement.
C'est de pallier cet aspect-là.
Voilà.
Et de pouvoir apporter de la discussion, de l'échange humain. Et c'est souvent là aussi que les failles...
Nous ramenons du relationnel au sein de l'enquête judiciaire.
J'en demande, est-ce qu'il existe des crimes parfaits où les indices sont absents? Emma Oliveira.
S'ils sont parfaits, c'est qu'ils ne sont pas chez nous. Ils sont passés inaperçus.
On ne fait pas appel à vous, en tout cas, dans ce cas-là.
Ouais. Bah, bien sûr, j'imagine. Enfin, y a beaucoup de crimes irrésolus, mais peut-être qu'ils ne le resteront pas. Nous l'espérons.
Ouais.
Le principe des colcaises.
Allez, on se retrouve dans un instant. Suite de l'émission et les messages pour vous sur franceinter.fr.
C'est de la sueur, du sang, de la fête et de la peur. Des partisans dans ma tête qui s'arrachent à la douleur. Que croyez-vous, je suis comme vous, mes refrains ne changent pas tout. Y'a pas grand monde dans le train, y'a pas grand monde sur le chemin. Pas beaucoup d'ombre dans le lointain.
les cœurs qui grondent, des outils pleins les mains, ont disparu des imageries. C'est trop ringard toutes ces conneries. Mais j'ose encore y croire. Je me fais juste mon petit grand soir. Travail, famille, Sarkozy. C'est la compassion pour les nantis. Mais si t'as rien à offrir, prépare-toi à souffrir au rendez-vous. Tu mets des faux fonds d'un trou. Il a des planches et même des clous. T'as intérêt à tenir debout. Car si demain tu sers à rien, on va te jeter comme un chien. Pour que tu puisses une fois dans la rue, épouvantail aux mains tendues, effrayer le salarié, fermer ta gueule, pas bouger.
Un soir dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis.
Y'a pas grand monde dans le train, y'a pas grand monde sur le chemin, pas beaucoup d'ombre dans le lointain. Les cœurs qui grondent, des outils pleins les mains, ont disparu des images gris. C'est trop ringard, toutes ces conneries. Mais j'aime encore y croire. Je me fais juste mon petit grand soir.
Dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis. Un soir dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis.
Du vent, la voix de Mano Solo sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Psychologue du crime, cet ouvrage paraît donc aux éditions Fayard. Florent Gaterias, Emma Oliveira sont mes invités et vous formez ce duo assez atypique d'ailleurs, vous le dites vous-même.
Oui.
Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Pourquoi atypique ?
Oui.
Parce que, regardez la photo.
Alors, il faut la décrire pour les auditeurs.
Oui, c'est ça. Oui. Un homme qui, effectivement, qui a une certaine stature physique et une jeune femme qui est plutôt, voilà, avec une différence d'âge. Je crois que c'est cette complémentarité-là dont on se sert dans notre pratique.
Oui.
Moi, j'ai très vite eu besoin de changer un petit peu mon optique de compréhension professionnelle. Et Emma est venue apporter ce complément lié d'abord effectivement à une autre génération, une autre vision. Elle est femme et je ne le suis pas encore. Donc effectivement, il y a quelque chose là qui vient en complément. Et c'est bon, voilà, c'est un petit peu d'ailleurs comme l'agent Starling dans Le silence des agneaux.
Absolument. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes que cinq, vous passez beaucoup de votre temps à éplucher des dossiers. C'est un boulot vraiment solitaire, Emma Oliveira, ou pas ? Et ce tandem là que vous formez, est-ce que vous êtes vraiment souvent amené à être ensemble sur le terrain ?
Alors, au début, moi, quand je suis arrivée, il n'y avait que Florent. Donc, c'est vrai que pendant 2 ans, on a été tous les deux. On a fait progresser encore un peu plus notre pratique, du fait aussi d'être à deux. Maintenant, c'est... oui, il y a un dossier qui arrive. Il y en a un de nous cinq qui est désigné. Il y en a toujours un deuxième qui vient en appui.
Ouais.
Mais c'est toujours des affaires extrêmement complexes. Donc, tous les cinq, on parle... Enfin, on est quatre, on est cinq dans quelques jours. On parle énormément de l'affaire.
Alors, justement, une affaire, évidemment, dont tout le monde se souvient, c'est l'affaire Mera. Mars 2012, oui. Toulouse, Montauban. Vous décrivez la scène, hein, Florent Gaterias, vous êtes en train d'acheter du fromage de chèvre, hein, sur un marché.
Oui, j'adore.
Et on vous appelle. Oui. Voilà.
Et là, très parisien, mais effectivement, c'est le cas. Pendant un week-end, généralement, j'aime bien me retrouver en Bourgogne. J'aime bien avoir un petit terrier pour me couper justement du monde. Et on m'appelle en me demandant de me préparer à aller sur Toulouse à propos d'affaires de militaires assassinés. Je savais que c'était le cas. J'avais suivi l'actualité. Ouais. Mais nous n'étions pas encore à ce moment-là dans une affaire de terrorisme.
Absolument. Et donc là, vous allez sur le terrain le lundi suivant, qui arrive, et les choses se bousculent très très rapidement, évidemment,
tout à
avec
fait.
Ce qui se passe.
C'est le jour de l'affaire du massacre de l'école aux Aratora. Et là, tout prend une dimension... Tout le monde veut participer à la résolution de l'affaire, essayer de trouver cet auteur, ce criminel, le plus vite possible. C'était intéressant à la fois de faire partie de cet ensemble et en même temps de pouvoir le regarder. J'avoue que j'avais l'impression que ça grouillait dans tous les sens, qu'au départ, on ne savait pas où ça pouvait amener. Et puis quand on prend un petit peu de distance, on voit des petits groupes où certains se focalisent sur les liens internet, d'autres sur le scooter. Il est évident qu'il y allait y avoir une résolution dans les heures qui venaient, et il fallait que je participe personnellement à cette résolution, ouais. parce que quand même, être dans ce type d'affaires et ne pas y participer, ça aurait été dommage.
Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous arrivez justement sur place, dans les heures qui suivent? Comment vous procédez-vous pour essayer d'arriver jusqu'à la piste du criminel ?
Alors, ce n'est pas moi qui suis arrivé à la piste de criminel, ce sont les policiers, les enquêteurs.
Mais vos éléments sont très importants, et ils participent, on le disait tout à l'heure.
C'est vrai. Ils permettent d'éclairer, en tout cas, certaines recherches. Mon premier souci a été de recueillir suffisamment d'informations pertinentes pour pouvoir analyser, notamment les vidéos de surveillance où l'on voit Mera, en l'occurrence, agresser et tuer, pas tous, d'ailleurs, les militaires à Montauban. Ouais. On voit donc un individu en pleine action, en train de tirer, de tuer froidement, avec cette particularité dans sa fuite, c'est qu'il laisse tomber un chargeur plein sous une camionnette.
Et alors il abandonne, hein. C'est-à-dire qu'il le voit, il essaye de le...
Il commence à le prendre.
C'est ça.
Et puis, il s'aperçoit que ça lui demanderait un petit peu trop de temps. Il abandonne sans aucune précipitation. Il le fait très rapidement, mais sans précipitation. Ça montre effectivement la détermination de l'individu.
Alors justement, le 22 mars, François Molins, le procureur de la République, annonce l'arrestation de Mohamed Mera.
L'analyse des vidéos, l'analyse du profil psychologique de M. Mera, qui apparaît effectivement comme ayant un profil violent. Il a été condamné à 4 ou 5 reprises pour des faits de violence par le tribunal pour enfants, et avec un profil psychologique allié à des troubles du comportement lorsqu'il était mineur, qui peut paraître compatible avec l'extrême violence qui a été démontrée par l'auteur de tous ces faits. Mohamed Mera explique que revendique d'abord une appartenance à Al-Qaïda, expliquant qu'il n'a pas l'âme d'un suicidaire et qu'il n'a pas l'âme d'un martyr et qu'il préfère, j'allais dire, tuer mais rester en vie. Il fait état du fait qu'il envisageait d'autres assassinats et notamment qu'il envisageait de repasser à l'acte ce matin même à destination d'un militaire. Il n'exprime aucun regret, si ce n'est de n'avoir pas eu le temps de faire plus de victimes, et il se vante même, dit-il, d'avoir mis la France à genoux.
Voilà, c'est donc au moment de l'annonce de sa mort, Florent Guaterias. Qu'est-ce qu'on a su finalement de sa personnalité à Mohamed Mera? Alors, qu'est-ce qui ressort?
La question, c'était à quel moment? Parce que avant de le trouver, nous ne savions
bien
rien.
Bien sûr, oui.
Et effectivement, j'ai essayé de construire un profil de personnalité en fonction du peu d'éléments, et notamment des observations dont je parlais, qui dressaient ce portrait psychologique, avec aussi cette utilisation d'un scooter qu'il a repeint en blanc, alors que ça n'était pas spécialement utile, mais qui lui donnait une image comme ça chevaleresque. Et puis petit à petit, on a eu les informations sur son parcours, notamment en prison, parcours carcéral, les différentes expertises qu'il a pu avoir précédemment. Donc on a pu être éclairé sur ce qu'il était, et petit à petit sur ce qui était nouveau en France, c'était la dimension terroriste islamique radicale. C'est le premier d'une série sur laquelle nous travaillons toujours.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un serial killer dans son cas ou pas?
Alors, oui, mais la dimension idéologique le teinte d'une personnalité différente des serial killers habituels. Nous avons affaire, en l'occurrence, en ce qui concerne Mera, à quelqu'un qui a un parcours avec une image personnelle totalement dégradée et qui, quelque part, est dans une recherche de rédemption radicale. Alors nous le voyons du côté du mal, mais pour lui, il est dans la recherche de gloire, une gloire qu'il n'a jamais eue dans toute sa vie.
Avec un narcissisme exacerbé, ça ressort assez souvent d'ailleurs hein, sur les différents profils dont on a parlé avec vous cet après-midi, Emma Oliveira. Hein.
Oui, il y a souvent, c'est des individus, en tout cas ceux qui évoluent dans la criminalité, qui ont effectivement souvent des failles narcissiques. Qui va se traduire au quotidien différemment. Mais il y en a beaucoup qui ont un narcissisme extrêmement développé.
Oui.
C'est pour ça que pour nous, il est défaillant finalement.
Oui. Donc ils ont envie aussi de se faire connaître.
Bien sûr.
Hein, jusqu'aux limites, évidemment.
Mmh. Souvent, ils n'ont pas été ou mal aimés pendant leur vie et ils essaient de rattraper ça par des gestes excessifs, mais qui n'ont aucun sens par rapport, en tout cas socialement aucun sens.
Ouais. Et alors le chapitre consacré à Mera s'appelle « J'aime la mort comme vous aimez la vie ».
J'adore cette phrase.
C'est lui qui l'a dit,
cette phrase. Parce qu'elle est tellement à l'opposé de ce que tout un chacun peut penser. Nous sommes dans... lui exprime sa volonté d'existence à travers cette phrase où il nie la vie. Évidemment, nous ne pouvons pas du tout comprendre, a priori, ce type d'élan.
Oui. Tous les attentats, évidemment, Charlie, le Bataclan, tout ce qui s'est passé un peu partout en France aussi, ce sont des moments très marquants aussi, visiblement, pour vous. Hein.
Bien sûr. Pas que pour nous. Hein.
En tant que citoyen.
Tant que citoyen, bien sûr. Mais en tant que professionnel, vraiment. En tant que psychologue aussi, j'ai l'impression que...
Ah, j'avoue que ça m'a d'abord marqué en tant que citoyen, avant d'être marqué en tant que psychologue, oui, largement. Et ensuite, j'ai essayé de mettre mon savoir-faire en matière de psychocriminologie au service de la compréhension de ce type d'acteurs nouveaux dans notre pratique.
Alors, c'est ça aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de recherche aussi hein, scientifique qui se poursuit autour de ces personnalités, autour du terrorisme, parce que, Emma Oliveira, c'est important aujourd'hui d'avoir une réflexion sur ces personnalités tout à fait atypiques pour pouvoir affiner, en savoir plus sur ces individus.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui existent, mais principalement sur la radicalisation. Mmh. Et le peu de gens qui se risquent à parler de terrorisme n'ont finalement pas toujours accès à l'ensemble de la procédure et de ce que les services de police ont réuni. Ce qui n'est pas notre cas. Et c'est vrai que depuis 2 ans presque, il y a une étude comme ça pour essayer de comprendre le phénomène terroriste français, puisque ça concerne le terrorisme en France. Et on espère qu'il aidera à une meilleure compréhension à la fois du phénomène et puis peut-être une prévention.
Mmh. Si ça peut servir, difficile de le dire.
Donc il pourra y avoir prévention s'il y a une meilleure compréhension des services de police, notamment au niveau des auditions qui vont être menées.
Ouais.
En tout cas, une prévention à la Minority Report, hein, qu'on s'entende bien.
Oui, c'est ça. Non, le terme prévention est dangereux et il ne faut surtout pas l'utiliser parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir ce type d'approche divinatoire. Ouais. Néanmoins, mieux comprendre les individus auxquels on a affaire permet d'être plus efficace, c'est clair.
Avec des individus qui agissent évidemment au moment où s'y attend le moins. Hein. C'est ce qui fait aussi
c'est leur particularité.
La particularité de ces personnes. On a parlé des profils des criminels. Quel est le profil typique d'un psychocriminologue, demande Michel sur franceinter.fr. Alors, à vous de vous allonger un petit peu sur le divan pour nous dire qui vous êtes, Florent Gatterias.
Être d'abord passionné de justice.
Mm-hmm.
Nous travaillons pour rendre justice aux victimes. C'est notre façon à nous de participer à un équilibre social. Alors, avec nos outils, avec ce que l'on est.
Mmh.
Il faut aussi avoir une reconnaissance du travail des différents intervenants, les policiers en premier. Nous sommes un plus pour eux, mais nous ne pouvons évidemment pas remplacer leur travail. Ils sont fondamentaux. Par contre, si on peut les aider, c'est clair que ça fait partie de notre... Et ça veut dire, en conséquence, au niveau personnalité, avoir par rapport à leur travail une humilité, parce que nous savons des choses, mais eux, ils en savent bien plus.
Un complément, Emma Oliveira, sur le profil de votre discipline, pour terminer.
Je pense qu'il faut rester très humble sur l'apport qu'on peut donner dans une enquête policière.
Et calme,
c'est
aussi.
C'est très important.
Et calme.
Et calme, comme un bon psychologue.
Voilà, normalement.
Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus cet après-midi dans La Tête au Carré. Il y avait beaucoup de messages pour vous sur le site de l'émission. Puis donc, je rappelle cet ouvrage qui vient de paraître chez Fayard, psychologue du crime et sous-titré « Dis-moi comment tu es mort, je te dirai qui t'a tué ». Et ça vient de paraître et ça intéressera évidemment Fabrice Drouel qui vient d'arriver.
Je suis en train de prendre note, les coordonnées, vos invités que je vais vous piquer pour une autre émission.
Je vous le prête, il n'y a pas de problème.
Avec plaisir.
À tout de suite.